France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Mais oui, c'est bien Pathé qui distribue votre film, Christophe Baratier.
Absolument, hein. Oui. Non,
vous avez le petit coq qui tourne.
Très très bien, mais en revanche, je ne l'avais pas repéré, j'aurais été le premier surpris.
Ah non, c'est une musique originale.
Oui, musique originale, c'est pas une musique du répertoire, c'est
non,
ça.
Non, on en a parlé tout à l'heure, il y a parfois des musiques du répertoire, comme ici avec Gaumont, et puis beaucoup de grands compositeurs qui ont écrit ces petites signatures qu'on a tous dans l'oreille, à commencer par le gros lion qui rugit. Alors J-1, on va les revoir ces signatures, on va revoir les films demain, après plus de 6 mois de fermeture. Les salles de cinéma rouvrent au public et si vous alliez voir un film qui fait du bien, un film français, populaire, mais oui, Envole-moi, avec deux jeunes acteurs formidables, Victor Belmondo et Johan Elundu, avec à leur côté Gérard Lanvin, ça sort donc sur les écrans, et c'est vous qui l'avez réalisé, Christophe Baratier, bonjour.
Bonjour.
Faisons les choses dans normal des émissions. Il y a toujours une émotion, un stress à la veille d'une sortie, mais là, alors que les spectateurs ne sont pas allés communier dans une salle obscure depuis 6 mois, parfois pleurer ensemble dans le noir, ce sera sans doute le cas dans un film comme celui-ci. Qu'est-ce que vous ressentez?
Évidemment, la veille, on se sent toujours... Vous savez, on a toujours l'impression d'être à la croisée d'un chemin, en tout cas, parce que il y avait un adage, il y a un adage qui dit « on ne vaut toujours que ce que vaut notre dernier film ». Par conséquent, dans ce milieu-là, on trimballe toujours un succès. On a beaucoup d'amis, beaucoup de coups de téléphone, et sur un insuccès, on a quelque chose qui fuit. Alors, ça conditionne un tout petit peu, c'est pas seulement une histoire de chiffres, mais ça conditionne un petit peu un état psychologique de notre existence pendant quelques temps.
Vous avez peu connu d'insuccès, Christophe Baratier. Je rappelle que vous avez réalisé Les Choristes, plus de 8 millions d'entrées, La Nouvelle Guerre des Boutons, Faubourg 36, L'Outsider aussi. Est-ce que, avec cette sortie de demain, il y a eu petite, sinon polémique, en tout cas, il y a les films qui ressortent, qui étaient à l'affiche quand tout s'est arrêté en octobre, et puis les nouveaux films, comme le vôtre. Est-ce que vous avez la crainte d'un embouteillage?
Oui, forcément, ça sera pas le premier en plus, hein, vous savez, parce que je crois qu'on va se confronter à de très grands embouteillages façon 15 août jusqu'à la fin de l'année. En revanche, il est vrai que moi, je n'ai pas décidé de cette date de sortie. Je pense, et j'ai une pensée d'ailleurs, parce que c'est bien, on va fêter ça dignement, j'espère que les chiffres seront bons, mais nous allons aussi fêter dignement tout en pensant, et d'ailleurs cette maison a dû le sentir, nous avons eu affaire à de gros dégâts dans le domaine culturel, notamment des petits orchestres, des intermittents du spectacle, des petites compagnies, des petits distributeurs, qui soit ne sont pas encore morts, mais soit qui vont subir des effets secondaires pendant de longues années. Donc voilà, je m'estime un enfant gâté. Je suis heureux aussi que ce film et ce qu'il communique, enfin ce qu'il semble communiquer, parce que tant qu'on l'a pas vu, les spectateurs jugeront. Mais en tout cas, de ce qu'il transparaît, soit une espèce de bouffée d'air frais qui convient plutôt bien à une période de confinement qui peut-être s'apparente aussi à une certaine libération.
C'est ce qui est écrit d'ailleurs sur les affiches qu'on voit depuis maintenant des semaines, des mois, en tout cas dans Paris. Il y a l'affiche du film « Envole-moi » de Christophe Baratier, puis il y a écrit tout en haut, je ne m'abuse, le film idéal pour retourner dans les salles ou quelque chose comme ça. Un film dans lequel on entend notamment Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
ce qu'on appelle une musique additionnelle qu'on entend au loin au début de ce film, au début d'Envole-moi de Christophe Baratier, notre invité ce matin. Ici, c'était Alexandre Tarot dans cette aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach. C'est Philippe Rombi, d'ailleurs, si je ne m'abuse, le compositeur qui joue lui-même au piano sur la bande originale de ce film. C'est une musique que Gérard Lanvin écoute au début du film. Il est chirurgien, il est passablement fatigué par la vie de fêtard de son fils, fils à papa, son rejeton incarné par Victor Belmondo. Il lui menace et le menace de lui couper les vivres s'il ne s'occupe pas de l'un de ses malades, un garçon de 12 ans atteint d'une grave malformation cardiaque qui le handicape dans ses gestes quotidiens. Et au début, pour le fiston, c'est pas très facile à faire passer.
Mais attends, mais je suis pas du tout fait pour ça, moi. Qu'est-ce que je lui apprenne?
Ce que je veux, c'est que le drame arrive le plus tard possible. Je me le suis promis.
En gros, tu veux que je tienne ta promesse, quoi. Et si je refuse?
Alors, je te coupe les vivres. Tu prends tes clics, tes claques, tu m'en les clés. Et tu oublies mon numéro de téléphone. À toi de voir.
C'est une blague ou quoi, là?
Et ça, c'est une blague?
Bah, depuis quand t'es sur Instagram, toi?
Mauvaise réponse.
Oui, le fait que Gérard Lanvin écoute chez lui les variations Goldberg prouve que c'est un rôle de composition.
Vous êtes sûr?
Oui, à peu près, absolument, à peu près, oui.
Qu'est-ce qui vous a séduit, Christophe Baratier, dans cette histoire inspirée d'une histoire vraie, et d'ailleurs déjà portée à l'écran en Allemagne?
Oui, c'est d'ailleurs un des premiers sujets, même peut-être le premier, dont je ne suis pas à l'initiative. Quand Dimitri Rassam, le producteur, m'a proposé ce scénario, j'étais déjà en préparation d'un film qui est Le Tour des Secrets, le film d'après Pagnol, le troisième volume de la trilogie. Et à chaque page, je me disais, non, faut pas que j'aime. Et tout à coup, je me suis mis à tourner ces pages, et j'avais envie de savoir quelle était cette relation, comment elle a-t-elle évolué. Surtout, évidemment, avec ce côté que j'ai, qui est toujours... pardonnez-moi, j'ai pas envie de me parler de moi, mon côté que j'ai, c'est un peu type prétentieux. On va dire, en tout cas, cette attirance que j'ai pour les films, dans lesquels on sait jamais très bien si à chaque coin de scène nous attend un rire, une émotion ou une larme. Et principalement, également un film dont on sait la fin, on connaît la fin, parce que le film est quand même relativement prévisible de ce côté-là, mais d'une façon dont on peut pas s'attendre. C'est en fait surprendre avec ce qu'on attend. Et très rapidement, le fait de travailler aussi, quand j'ai fait le casting avec Gérard Lanvin, qui pour moi est un acteur, un grand taulier du cinéma que j'admire depuis longtemps, un jeune acteur en devenir, Victor Belmondo, dont j'ai très vite d'ailleurs oublié le nom, enfin je veux dire, tout ce qui s'y rattache.
C'est le petit-fils.
Oui, c'est le petit-fils de Jean-Paul, aussi l'arrière-petit-fils de Paul, le sculpteur, et donc le fils de Paul également, et qui a démontré par sa formation, etc., une présence, que c'était un acteur formidable, avec en plus une qualité, deux qualités, le talent évidemment, mais une belle qualité aussi, c'est d'être bien élevé, ce qui devient peu fréquent sur les plateaux de cinéma, et enfin de révéler un jeune acteur, Johan Nlundu,
formidable,
le jeune patient dont vous parlez, qui lui était issu d'un casting, qui n'était pas, voilà, qui est venu comme ça, et qui, maintenant avec les enfants, j'ai à peu près l'habitude, quand je vois des essais, disons qu'il me faut entre 5 à 10 secondes pour savoir si quelqu'un est capable de venir sur un plateau.
Les choristes, Faubourg, ouais. 36, La Nouvelle Guerre des Boutons, ici en Envole-moi, on retrouve quand même des choses. La transmission, ce goût pour l'enfance, quand vous regardez un peu, vous avez fait quelques longs-métrages seulement, hein, en une vingtaine d'années, ouais, vous prenez votre temps,
ouais.
Même si là, ça va sans, ouais. Il y a aussi un embouteillage, ouais, personnel, ouais. Mais le temps des secrets, il y aura aussi l'enfance.
Bien sûr, c'est des choses qu'on peut, en fait, dont je me rends compte plutôt après. C'est-à-dire que je me prédétermine pas en train de dire, tiens, voilà, je veux faire un film sur ceci ou sur cela. Ce sont les sujets qui m'ont attrapé à chaque fois et je peux en faire l'analyse, finalement, enfin, l'analyse où l'on dessinait les contours et les motivations plus facilement après. Je me rends compte, oui, pourquoi les enfants, pourquoi... On m'a souvent parlé, surtout sur 36, et choriste, où il y a des boutons, l'homme du passé, vous savez, pour reprendre une expression connue. En fait, c'est pas du tout l'homme du passé, enfin, pas de n'importe quel passé, c'était pas mieux avant, je suis beaucoup plus heureux de vivre, je n'ai absolument aucun envie d'un retour en arrière, sauf d'une chose, évidemment, mais que l'on partage tous, je crois, c'est si on a une nostalgie, c'est pas la nostalgie des temps anciens, c'est la nostalgie de notre enfance. C'est de notre enfance. Et je redécouvre, en ayant moi-même des enfants, etc., à chaque fois, ça me remet à jour sur cet accompagnement, ce qui fait que je me sens très très bien avec eux, que je sais comment un enfant réagit, surtout que je sais comment un adulte peut réagir avec les enfants, et je crois que c'est peut-être principalement ça, sans le vouloir consciemment, mais qui rôde et qui hante un peu la plupart de mes sujets.
Christophe Baratier, on va parler de la musique de ce film, de votre rapport à la musique, parce que vous êtes aussi, vous êtes d'abord musicien, mais j'ai quand même une petite question qui fâche, les comparaisons avec Intouchables, est-ce que ça vous agace ?
Si on parle de chiffres, non. Mais oui, non, mais c'est vrai. Ça encore, sincèrement, je m'en suis pas rendu compte.
J'ai lu dans le journal du dimanche.
Oui, oui, non, mais c'est possible, parce qu'évidemment, bah, écoutez, oui, c'est une histoire d'entraide, c'est une histoire d'un handicap, un jeune handicapé qui est aidé par quelqu'un d'autre, un duo improbable. Oui, bien évidemment, mais ça, en même temps, tous les sujets ont été traités, tous les sujets, quasiment aucun sujet n'est neuf. En tout cas, celui-là peut-être pas. Mais si nous sommes au moins dans une comparaison avec Intouchables, on va dire dans le genre Intouchable, parce qu'Intouchable évidemment touche à des choses graves, mais avec toujours avec un pas de côté sur l'humour, et c'est à peu près ce qu'on a fait aussi. Donc finalement, je dirais que la comparaison me va très bien.
Place de l'enfance, place de la musique dans vos films. On vient d'entendre Bach qui apparaît comme ça au début. Il y a d'ailleurs un doudou qui s'appelle Hector, tiens, dans le film. Cette musique-là, à quel moment elle vient dans le film, dans l'écriture, dans sa construction ?
Ça dépend des films. Sur celui-là, comme j'ai accepté le projet tardivement, elle est venue plutôt à la fin du tournage. Il s'agit d'une musique que Philippe Rombi, mon fidèle partenaire, a fait dans un style un peu sérialiste, on va dire, un peu répétitif. Enfin, répétitif, vous voyez ce que je veux dire. Je parle du genre répétitif, pas non plus une musique qui se répète. Et puis, par exemple, pour le temps de la guerre, pardonnez-moi, je prends pas vos auditeurs pour des crétins, mais parfois je préfère le signaler.
Bah, peut-être ouais. Que Philippe Rombi nous écoute.
Oui, ouais, bien sûr. Et ensuite, en revanche, pour le temps de la secret, c'est une musique pastorale, symphonique, etc. Donc la musique est présente très proche parce que tout simplement, je crois que c'est le genre qui m'a fait tomber vraiment en adoration. Ça, c'est pas venu comme la musique. J'ai appris, par exemple, moi, à lire les notes avant de savoir écrire. En revanche, la musique de film, personne ne me l'a montré. Je me la suis trouvée tout seul et finalement, elle comporte tous les genres. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas comme certains cinéastes qui s'en méfient, qui attention, il ne faut pas que ma musique prenne trop de place ou vienne illustrer. Voici la mienne, elle illustre. Elle prend beaucoup de place, et tant mieux.
Bon, on va en écouter un extrait de cette musique. En plus, elle a été enregistrée avec, on en parle après, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par son directeur musical, Kez Scallion. Extrait de la bande originale du film Envole-moi qui sort demain en salle. Ça fait drôle de le dire. C'est le nouveau film de Christophe Baratier. Musique signée Philippe Rombi avec l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par le compositeur. Et à la guitare, l'une des deux guitares qu'on entendait. Bah c'est vous, Christophe Baratier, vous faites tout.
Et oui, c'était mon premier. C'est par ça que j'ai commencé mes activités. Je suis rentré à 14 ans, à l'École normale de musique de Paris, ouais, Salle Cortot,
à côté de la Salle Cortot.
Et j'ai toujours étudié avec mon maître Javier Quevedo, qui maintenant n'exerce plus, mais duquel je suis resté vraiment proche et qui pour moi est toujours mon maître, est toujours mon professeur et mon ami. Et je me sens toujours davantage d'ailleurs musicien que cinéaste en fait, parce que j'ai beaucoup plus d'admiration, on le dira pas ailleurs qu'ici, mais pour un interprète que pour n'importe quel cinéaste, tout simplement parce que le cinéma étant une entreprise totalement collective, ou dans lequel on peut rien faire tout seul. Donc par conséquent, on a des producteurs, on a un chef opérateur, on a des acteurs et tout. Les fonctions, même si on est, paraît-il, le capitaine, mais voilà, je pense que n'importe qui, en fait, peut signer un film, même mauvais. Mais il peut le signer. Tandis que quand on a une guitare Contreras et qu'on a 2000 personnes ou un piano Steinway, il est inenvisageable de se pointer sur une scène sans avoir étudié 20 ans. Et après, on est maître. Voilà, c'est pour ça que l'interprète, pour moi, est quand même un artiste d'un autre niveau que le cinéaste qui, on va dire plutôt pour moi, exerce une profession artistique.
Mais pourquoi vous avez quitté la musique alors? L'avez-vous quitté?
Ouais, je l'ai pas vraiment quitté. J'ai eu un petit coup de blues vers 25 ans où je sentais que la carrière de soliste serait très difficile. Et donc se présenter à moi, comme à tous mes camarades d'ailleurs qui ont suivi, une carrière d'enseignant, et je dois avouer que ça me plaisait pas du tout. Je détestais enseigner, et donc peut-être par lâcheté, je l'avoue, j'ai abandonné du jour au... C'était assez facile parce qu'au moment que Jacques Perrin, le producteur et l'acteur, était...
Et votre tonton.
Mon tonton, donc voilà, j'ai qu'à franchir un pas. Et finalement, ce pas m'a totalement réconcilié, évidemment, je pense que j'y ai trouvé ma place maintenant, mais m'a réconcilié aussi avec la musique, parce que je fais toujours beaucoup d'instruments, et avec même, je dirais, une exigence bien plus grande qu'avant.
Comment vous travaillez avec Philippe Rouvy? Vous nous l'avez dit, ici vous êtes arrivé relativement tard, mais il vous envoie c'est scène par scène. Oui. Il y a des travaux très différents suivant les compositeurs.
Alors souvent, ce que je lui demande, c'est de me faire une suite initiative, un peu comme une ouverture d'opéra. Une suite simplement qui me donne les différents thèmes, la couleur, ça a cette couleur, je l'inscris dans les scènes, je la fais même parfois écouter sur le plateau. Et Philippe travaille évidemment ce qu'on appelait les maquettes auparavant, qui était un terme qui faisait frémir d'horreur les compositeurs. Maintenant ça va mieux parce que Philippe utilise les samples de l'orchestre de Vienne. Et donc plus ça va, mois après mois, où je vous promets qu'il y a encore pour 5 ans, j'aurais pu reconnaître presque une nappe d'un orchestre, une nappe de sample, maintenant je peux plus. Et je pensais que les instruments solos seraient détectables, ils le deviennent dans moins en moins, ça fait un peu peur. Mais il n'empêche que même comme ça, je veux dire, malgré tout, la magie de l'orchestre, ça s'entend, l'acoustique, le son, un archet, tout ça est totalement irremplaçable. Mais on travaille vraiment avec des maquettes et Philippe travaille au timecode, c'est un scoreur absolument formidable.
Et là, avec l'Orchestre National d'Île-de-France, vous avez assisté aux enregistrements, vous avez été en studio.
Comme un mort de faim, tous les jours. Et puis, après, c'est trop tard. Moi, je te parle beaucoup avec Philippe qui a le mérite, maintenant, on se connaît tellement que j'ai plus besoin, quand ça me plaît pas, de prendre des circonvolutions en le flattant pendant 30 minutes afin de placer mes réserves. Maintenant, je dis carrément, puis lisons moi-même les partitions, on peut en discuter directement. C'est une collaboration exceptionnelle.
Ça fait pendant longtemps, on n'a pas eu d'orchestre français qui jouait de la musique de film pour des raisons budgétaires. Pourquoi maintenant c'est possible?
Parce que je crois qu'on a profité aussi d'une période d'inactivité. Je crois que c'était un petit peu ça. Mais c'est vrai qu'il y a, on allait souvent à Prague, à Sofia. Philippe lui-même travaillait avec des musiciens, on va dire, qui appartenaient à de grandes formations, mais qui venaient en studio un par un. Et puis c'est toujours jamais si un jour on avait la chance de pouvoir ouvrir dans cette maison une de vos deux formations.
On le fait
de plus en plus, ça a été demandé.
Avec Alexandre Desplat pour Luc Besson notamment.
Oui, c'est ça. Mais alors il faut bien se passer, faut pas paraître très en amont, mais c'est évidemment l'Orchestre d'Île-de-France nous convient très bien, mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même un historique et un prestige particulier.
La force de la musique, d'ailleurs, on va parler de ce festival qui a lieu le mois prochain à la Baule. Le festival de musique de film, mais aussi au cinéma, la force d'une chanson populaire.
Oh,
Jean-Jacques Goldman, oui, qui, on va le moi grâce à lui, hein, d'une certaine façon, grâce au titre. Il a eu la gentillesse également de nous laisser synchroniser la musique. Je ne le dérange pas dans son, voilà, dans sa volonté d'être discrète, ce que je respecte énormément. Peut-être vous le verra-t-il. Enfin voilà, c'est vrai que la chanson On va le moi, elle fait partie à un moment d'une séquence d'un karaoké, puisque le petit garçon dont on parlait présente à Victor, donc à Thomas, Victor Belmondo, une sorte de souhait, une sorte de liste de souhaits, et dont chanter du Goldman, to-do list, voilà. Et donc j'essaie de le dire autrement, et dont une des conditions est de chanter du Goldman en public, ce qu'il fait dans le film, et je crois que c'est une des belles scènes.
La musique qu'on appelle la chanson française ou la variété au cinéma peut avoir une force émotionnelle extrêmement forte, vive quand on la met à un moment donné comme ça, qu'elle prend le spectateur.
C'est ça, oui. Même une chanson que tout le monde connaît, tout d'un coup dans un film dramatique, si on a une chanson légère, peut prendre un sens vraiment. Et puis à condition, c'est vrai, d'en utiliser qu'une seule. Si on sent que c'est un choix délibéré, une sélection, c'est pas pareil. Mais on peut la mettre parfois en décalage et tout, ça marche bien, oui.
Comment on dose l'émotion, comment on sait, on ne sait pas a priori, mais les moments où l'émotion va monter chez le spectateur, c'est un film qui va beaucoup toucher les gens, vous le savez.
J'espère, non mais on ne sait jamais, oui. Déjà à l'écriture, ensuite on la renforce à la mise en scène, et ensuite souvent avec l'intensité des acteurs, ce qui revient à peu près à la même chose, et ensuite au montage de la musique, c'est-à-dire qu'avec un mauvais montage on rate tout, une mauvaise musique également. Et c'est vrai que moi j'ai peut-être un trop grand goût pour l'émotion, peut-être un trop grand penchant, on va dire,
disons-le, vous méfiez de vous-même
sur les bons sentiments. Je me méfie de moi-même, mais c'est surtout quelquefois, je pense que je présente les choses telles que je voudrais qu'elles soient, mais ce n'est pas forcément ma nature profonde, qui peut-être va sur des choses beaucoup plus noires, beaucoup plus dures, et si je me laissais un jour ouvrir, ça pourrait même être carrément très choquant. Donc par conséquent, je n'en suis pas encore à m'ouvrir du très fond de mon âme, j'en suis encore à préférer mettre en scène des histoires telles que j'aimerais qu'elles se passent et telles que je pourrais les trouver comme exemplaires dans la vie.
Christophe Baratti, sur votre to-do list, sur votre liste de souhaits en bon français, est-ce qu'il y aurait un jour mettre en scène un opéra? Vous avez mis en scène des spectacles musicaux, il y a eu Les Choristes, version comédie musicale, il était une fois Joe Dassin, il y a même eu Jésus de Nazareth à Jérusalem avec Pascal Obispo.
Oui, qui était assez opératique dans ce genre. Je m'en approche. La seule chose, c'est que je serais, comme j'ai beaucoup de respect et de prudence, ce que j'aimerais en fait, c'est commencer par un genre qui commence à revenir un peu à la mode en France, mais qu'on a trop souvent oublié, qui est l'opérette. Et là-bas, avec des troupes extraordinaires comme les Frivolités parisiennes, qui montrent tout ce que j'aime du Maurice Yvain, du Reynaldo Hahn, du Offenbach. Je pense que c'est par cette porte-là que modestement j'entrerai avant de taper à la porte des grandes maisons, qui de toute façon, vu mon CV, vous savez, si je viens avec Joe Dassin, tout ça, ils vont me dire, oui, vous êtes très gentil. Je pense qu'il faut que je prouve d'ailleurs, mais en recommençant une carrière, finalement d'un côté modeste, mais c'est évidemment, l'opéra accompagne toute ma vie, les voix ont toujours accompagné ma vie, les voix des choristes, j'ai même chanté, j'ai fait du chant lyrique longuement. Et c'est évidemment, pour moi, ça serait une arme, ça serait une quête. C'est un Graal. Tous ceux qui m'entendent peuvent y penser, si jamais ils ont des projets. Mais en tout cas, c'est vrai que par l'opérette, je trouve qu'un genre qu'on a trop souvent délaissé, je serais le premier passionné à me jeter dans l'aventure.
L'appel est lancé sur France Musique. Tiens, on écoute encore un peu de musique de Philippe Rombi. Quelques mesures de la bande originale d'Envole-moi, musique de Philippe Rombi avec l'Orchestre National d'Île-de-France.
Et Philippe au piano.
Et Philippe Rombi au piano. Le film de Christophe Baratti sort demain. Un film, je ne révèle rien, je pense. On va voir à un moment donné la boule. La Baule, d'ailleurs Gérard Lanvin est baulois, La Baule où vous occupez, vous êtes le directeur artistique de ce festival de musique de film qui va avoir lieu cette année.
Moi, on a cofondé ce festival avec mon ami Sam Bobineau il y a 7 ans, c'est la 7e édition. Ça sera d'ailleurs le premier festival, le 23-27 juin, le premier festival d'été, parce qu'il n'y aura pas de grand festival de cinéma. Et donc, chaque année, on présente une sélection qui est évidemment marquée à la condition d'avoir des compositeurs et une bande originale d'importance. Et puis, chaque année, nous rendons hommage à un grand compositeur. Cette année, ce sera Philippe Sard, qui sera notre invité d'honneur, avec un grand concert à l'issue au Palais des Congrès de La Baule. Voilà.
Rendez-vous du 24...
Du 23 au 27 juin.
23 au 27 juin. À La Baule, tout fini, à La Baule parfois. Bah nous, on va descendre à Rochefort pour se quitter, si vous voulez bien. C'est vrai que sur le plateau des Demoiselles de Rochefort, vous avez eu un déclic cinématographique.
Il y avait mon tonton qui jouait le marin Maxence, et il y avait mon père qui était l'assistant réalisateur de Jacques Demy. Et j'ai une photo sur ce plateau, j'ai 2 ans, avec dans les bras de Gene Kelly. Ouais, c'est une photo que je garde précieusement. Vous vous rendez compte à quel point c'est symbolique. Et donc, Jacques Demy fait partie de la famille et cette musique fait partie non pas seulement de ma famille, mais fait partie de ma vie.
C'est vrai que c'est le premier long métrage de Jacques Demy. Le lac commence d'ailleurs à La Baule.
Exactement.
Soyez pas triste, monsieur Maxence. Des filles, après tout, il y en a plein les magasins.
Je l'ai cherché partout. J'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois. J'ai inventé son nom, j'ai entendu sa voix. J'ai dessiné son corps et j'ai peint son visage. Son portrait et l'amour ne font plus qu'une image. Elle a cette beauté des filles romantiques et d'un Botticelli le regard innocent. Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hantent les musées et les adolescents.
C'est diabolique à chanter, hein, ça. C'est descendre en demi-ton, voilà, c'est très très compliqué. Celle-là, beaucoup de jeunes chanteurs ont voulu l'apprendre quand je donne des cours de communication musicale. Celle-là se prennent dedans à chaque fois.
Merci Christophe.
Merci
Baratier
à vous, merci de cette
ce
matinée.
Matin sur
merci,
France
merci.
Musique, les Demoiselles de Rochefort, la chanson de Nathan Maxence et la voix de Jacques Revaux. Envole-moi sort demain en salle, courez au cinéma. Demain, notre invité sera le directeur de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, qui présente aujourd'hui sa nouvelle saison, sa prochaine saison.
À réécouter sur francemusique.fr.